La scène se passe dans un studio de radio. Il y a 4 micros, mais 2 pourraient suffire. Il entre, salue son interlocuteur, s'assoit côté jardin, même s'il n'y a pas de jardin, forcément. Un verre d'eau est posé sur la table et tout d'un coup, une musique, un générique.
Pascal Paradou.
Ainsi commence l'émission en imaginant aujourd'hui qu'elle est comme une pièce de théâtre puisque Pierre Le Tessier est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Metteur en scène, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle et auteur d'un essai sur les didascalies. Alors ce n'est pas un mot du quotidien que ce mot de didascalie, décidément, mais c'est un terme incontournable pour qui aime le théâtre. Petite définition.
Alors, petite définition rapide, les didascalies, ce sont tous les mots qui organisent le dialogue, qui lui donnent sens et forme, concrètement, qui commencent par poser des conditions d'énonciation, qui disent qui parle, le nom du personnage, où on est, quand on parle, comment on parle, quel geste, quelle action se fait sur scène.
Ce que j'ai tenté de faire au tout début de cette émission, en disant la scène se passe, il entre, etc.
Exactement, vous avez ouvert l'émission avec une didascalie initiale.
Donc, les didascalies sont destinées à qui ? Il y a deux destinataires, en fait. Il y a le lecteur quand c'est un texte, mais c'est aussi pour le metteur en scène et pour les comédiens.
Alors, en fait, les didascalies, elles sont destinées d'abord au lecteur, et au lecteur, alors qu'il soit praticien ou non praticien. C'est-à-dire qu'il y a un double destinataire.
Pourquoi d'abord au lecteur ?
Non, je dis d'abord parce que je me plaçais dans une logique historique. C'est-à-dire que les premières didascalies, elles apparaissent non pas à destination des praticiens, mais à destination des lecteurs qui, justement, ne sont pas du tout des praticiens. C'était pour organiser le texte.
Alors, justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous vous occupez des didascalies aujourd'hui, dans le théâtre contemporain, mais vous en faites une histoire. Est-ce que étudier cette évolution des didascalies, c'est raconter l'histoire du théâtre ?
Ah oui, absolument. Oui, parce que le théâtre s'écrit avec des didascalies depuis le Moyen-Âge. Donc, les didascalies et le dialogue, c'est le texte de théâtre. C'est ça qu'on appelle un texte de théâtre. Donc, en fait, faire l'histoire de ce texte, c'est aussi faire l'histoire du théâtre, parce que justement, puisque ces didascalies disent ce que font les acteurs, ce que font les personnages, mais aussi ce que font les acteurs, parce que c'est aussi à destination donc, des praticiens, des metteurs en scène, des acteurs, en fait, c'est une façon de voir comment, non seulement comment on écrit, mais comment on joue. Dans quel contexte, de quelle façon, le théâtre ?
Alors, vous dites depuis le Moyen-Âge, ça veut dire que dans l'Antiquité, là où naît le théâtre, en Grèce, il n'y a pas de didascalie ?
Absolument, il n'y a pas de didascalie. Enfin, le mot didascalie est grec, hein, il existe, mais les didascalies, en fait, c'est le catalogue des vainqueurs, parce que le théâtre était un concours donné en l'honneur de Dionysos. Et donc, on classait les vainqueurs, et donc il y avait une liste, une sorte d'archive, en fait, qui se faisait pour garder la mémoire des vainqueurs. Mais sinon, la pratique même de l'écriture du théâtre à cette époque-là, elle se fait sans ce qu'on appelle, nous, les didascalies. C'est-à-dire, les manuscrits, il n'y a que le dialogue. Il n'y a même pas les noms des locuteurs, en fait. Il n'y a rien du tout, en fait.
Donc, c'est du dialogue linéaire.
C'est du dialogue linéaire.
Il n'y a même pas de distinction entre les scènes et les actes.
Les actes n'existent pas. En fait, il y a des distinctions, mais qui se font d'autres façons, notamment avec des écritures métriques. C'est-à-dire, par exemple, il y a des moments où il y a de la musique, des moments où il n'y a pas de musique. Et ça, ça va hiérarchiser. C'est-à-dire qu'en fait, alors pour nous, en fait, c'était des textes qui étaient, pour nous, ce seraient des textes qui seraient illisibles sous cette forme-là. Et à l'époque, c'était des textes qui n'était pas lu, sinon par les praticiens. Seuls les acteurs lisaient ces textes-là.
Oui, on n'était que dans une logique orale. De toute façon, il n'y avait pas d'imprimerie et l'accès à l'écriture était extraordinairement limité.
Oui, il y avait quand même des textes qui circulaient. Les poètes écrivaient leurs textes sans doute sur des tablettes de cire. Après, c'était recopié par un copiste sur un manuscrit. Et puis, il y avait des manuscrits qui étaient conservés et qui circulaient et sur lesquels les acteurs pouvaient travailler. Mais ça restait très, très réduit. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on s'est mis à lire le théâtre.
Alors, dans votre livre, Pierre Le Tessier, les didascalies en question, vous racontez qu'elles ont été inventées donc au IVe siècle après Jésus-Christ. Et puis, vraiment, c'est au Moyen-Âge qu'elle s'installe. C'est la belle époque des didascalies, avec une invention qui permet une évolution de la forme du théâtre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la polyphonie, il peut y avoir beaucoup de personnages.
Absolument. En fait, alors, quatrième, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que les premiers manuscrits qu'on a conservés, effectivement, sont ceux du quatrième après Jésus-Christ. Et là, il y a une organisation du dialogue. C'est-à-dire qu'on rajoute, par exemple, les noms des personnages qui vont parler dans la scène.
Donc ça, c'est les premières didascalies.
Voilà. Alors, on appelle ça la rubrique, et ça, ce sont des savants qui ont rajouté ça, mais notamment pour que les textes puissent être utilisés, ne serait-ce qu'à l'école, pour qu'on puisse travailler dessus. Donc, c'est sur des manuscrits latins. Hein. Et après, on va développer ça et on va rajouter les noms des personnages devant leurs répliques. Et quand on est au Moyen-Âge, eh bien, effectivement, les auteurs, à ce moment-là, vont pouvoir utiliser cette technique qui a été utilisée donc sur les manuscrits, les textes latins qui nous sont transmis et auxquels ces auteurs médiévaux ont accès, ils sont organisés avec des didascalies. Et donc, à ce moment-là, il se passe une chose tout à fait extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire du théâtre, en fait, les auteurs vont écrire du dialogue, mais ils vont écrire aussi des didascalies. Et effectivement, ça change tout, parce que, en fait, c'est pas un hasard si dans les textes antiques, on a le chœur, mais sinon, on a le théâtre grec, c'est trois acteurs, c'est trois protagonistes. Les comédies romaines, c'est 4-5 personnages grand maximum. Et en fait, on mettait pas le nom du personnage dans le manuscrit, donc il y avait une technique où les acteurs, en parlant, nommaient leur interlocuteur. Et on arrivait comme ça à distinguer qui parlait. Et en fait, ça réduisait le nombre de personnages. Et effectivement, au Moyen-Âge, une des grandes conséquences directes, c'est que d'un seul coup, on peut avoir des textes, on a des mystères qui ont 350 personnages. Donc, écrire un texte avec de 35 000 vers, avec 350 personnages, je pense à la Passion d'Arnoul Gréban, sans la possibilité d'écrire le nom du personnage devant sa réplique, ça paraît très bien compliqué. Oui, en effet.
Donc, on voit bien que ça évolue énormément au fil des siècles, ce principe, cette technique de la didascalie. Celle que nous connaissons aujourd'hui, finalement, vous dites, elle date du XVIIe. C'est à ce moment-là que ça se fixe. C'est Corneille, Racine, et là, c'est écrit en italique, il y a le nom du locuteur, c'est évident, et puis il y a les injonctions, il entre, il sort, etc., etc., c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du Moyen-Âge, on pratique cette écriture, donc on va apprendre aussi à la lire, et puis les choses vont se fixer petit à petit, et ça se fixe effectivement, en gros, au début du XVIIe, dans les années 1630, et ce qu'on appelle nous, ce qu'on visualise nous comme un texte de théâtre, une page de théâtre, avec le nom du locuteur, et puis des indications comme il entre, il sort, en italique, et bien en fait, tout ça se fixe effectivement au XVIIe siècle.
Mais on parle pas de didascalie au XVIIe, on parle de notes.
Oui, en fait, c'est le mot qu'utilisent d'Aubignac et Corneille, justement. Oui, parce qu'en fait, il y a une proximité entre les didascalies et le vocabulaire du commentaire. Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans les manuscrits médiévaux, on trouve aussi bien des indications scéniques, du type « il se déplace et il fait telle chose », que des commentaires théologiques. Jésus fait tel geste et on donne la signification du geste. Et au XVIIe, au XVIe, on a encore ça. Et au XVIIe, il y a un mouvement de ménage qui se fait et on pousse tous les commentaires type historique, philologique, dans les notes ou bien en marge à la fin du livre. Et on garde dans la page que les indications scéniques.
Mais on garde le mot de note pour ces indications scéniques. Oui. Pierre Le Tessier, on va évoquer quelques pièces importantes dans l'histoire du théâtre occidental et dans l'évolution des didascalies. Mais après un détour ailleurs, puisque c'est le nom de notre rendez-vous du lundi. Ailleurs, à Prague, avec Jovanka Cholotova. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prof de lettres à l'Université Charles, critique littéraire et traductrice. Vous participez donc, Escalité, à des ateliers organisés pendant le Salon du Livre de Prague. Des ateliers sur la traduction. En République tchèque, est-ce que la littérature étrangère est très présente ?
Bien sûr, parce qu'on est un petit pays avec une littérature pas si forte, on peut dire. C'est-à-dire la littérature qui est traduite fait une grande part du marché du livre tchèque.
Vous êtes quand même le pays de Kafka.
De Kafka, de Kundera, de Čapek, de beaucoup d'autres, oui.
Donc c'est quand même un grand pays de littérature. Donc parmi cette littérature étrangère traduite, quels sont les pays les auteurs les plus lus et les plus traduits ?
Question assez difficile. Prioritairement, c'est la littérature anglo-saxonne, mais la littérature française joue un rôle assez important aussi. Il y a une centaine de livres de romans français traduits chaque année.
Alors vous traduisez Michel Houellebecq, Jean Echenoz ou Jean-Philippe Toussaint. Est-ce que ce sont les auteurs français les plus lus, les plus référents, ou ce sont des auteurs de niche pour les lecteurs tchèques?
Alors, de ces noms que vous avez cités, c'est peut-être Michel Houellebecq qui était le plus visible à la scène littéraire tchèque. Mais au moment actuel, c'est plutôt Édouard Louis et Annie Ernaux, grâce à des événements qui se sont passés, le prix Nobel, etc.
Qu'est-ce qui touche les Tchèques dans la littérature d'Annie Ernaux ou d'Édouard Louis?
Je pense que c'est une catégorie de littérature qui parle de la vie quotidienne, de la sociologie de la vie, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'offre de la littérature tchèque.
Pour vous qui êtes traductrice, Jovanka Šelotová, est-ce que le passage du français au tchèque est compliqué? De quel type de nature est ce passage?
Pour les traducteurs expérimentés, ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il faut connaître bien la langue d'origine, la langue source, et aussi le tchèque. Et aussi avoir le contexte de ce qui se passe en littérature à l'étranger pour savoir ce qui est important à traduire, etc.
Votre présence au Salon du Livre et ces ateliers de traduction auxquels vous participez, est-ce que c'est destiné à créer des vocations?
Oui, certainement, parce que à l'époque où l'intelligence artificielle est très présente, surtout pour nos professions, il faut montrer aux gens comment la traduction littéraire fonctionne, que les traducteurs sont vraiment importants dans ce travail et comment ça se passe de traduire un texte littéraire. Alors l'atelier que je vais présenter, on va le faire avec les étudiants. On va traduire un extrait du texte d'Abdelataya, Bastion des larmes, qui faisait partie des 4 livres nominés pour le Goncourt tchèque, qui va être annoncé à la Foire du Livre à Prague ce week-end.
Oui, donc ce sera le choix du Goncourt de la République tchèque. Merci beaucoup, Jovanka Šelotová. Le Salon du Livre de Prague se déroule du 15 au 18 mai. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
De Baltimore à Babelouette, j'allais bramer dans les bastringues avec un burin et pipette qui bondait pas pour le burlingue. Dans ce bande branchée bipolaire à faire basculer les belles-mères, j'allais besogner le brouillard avec un tambour de bazar. J'allais baver pour les babas et les broutards à boucles blondes, des petites bulles de baraka et des bonbons pour les James Bond. Baby boom boom, faut faire un break, y'en a ras-le-boc de ces blancs becs qui bondent que pour le bazooka, pour la bagarre et le branle-bas. Baby boom boom, baby boom boom, baby boom boom. Ils se braquent à bloc sur le baston, des barbes bleues bardées de bronze, des cow-boys bourrés de béton, des zombies bidons et des bons qui leur balancent une blanquette, oh, écrabouiller les banquettes, à vous briser les roubignoles, à vous faire barrer de la boussole. Pendant que je brûle de la banquise, braconnant le bonheur sans but et me baignant aux 4 bises avec les boucs de Belzébut. Baby boom boom, faut faire un break, y'en a ras-le-boc de ces blancs becs qui bondent que pour le bazooka, pour la bagarre et le branle-bas. Baby boom boom, baby boom boom.
Brigitte Fontaine et Areski Belkacem sur RFI avec Baby Boom Boom, un titre avec des allitérations en B. C'est un titre qui a été enregistré dans les années 80 mais qui n'avait pas été commercialisé. Cela donne donc, avec d'autres morceaux, un nouvel album tout droit sorti des archives qui va donc sortir sous le titre Baraka 1980. Pierre Letessier est notre invité aujourd'hui pour son livre Les Didascalies en question. Et c'est par ce prisme l'occasion de revisiter quelques grands moments du théâtre, puisque chaque époque a ses didascalies, ou presque. Ça date un texte. Alors, on évoquait Racine le XVIIe siècle. Pourquoi, à cette époque, cette forme se fixe ? Pourquoi il y a une forme de didascalie très spécifique au XVIIe que l'on retrouve encore aujourd'hui ?
Alors, déjà au XVIe, on commence à avoir des didascalies qui petit à petit prennent forme, et puis c'est dû à l'essor de l'impression, de l'imprimerie. C'est-à-dire que l'imprimerie théâtrale au début du XVIIe est vraiment très active, en particulier à Paris. Et donc là, il y a une sorte de microcosme qui, sans doute, ça va aider à cristalliser les usages. Et donc il y a des choses qui marchent bien, parce que les éditeurs, ils ont un peu tâtonné, on voit bien quand on regarde l'histoire de l'édition. Et petit à petit, on se met d'accord, par exemple, l'italique, eh bien, ça devient le signe des didascalies quand on ne les met pas entre parenthèses ou quand on ne les accroche pas au nom, par exemple, du personnage locuteur. Et donc, si ça marche bien, on le reprend et on reproduit. Et petit à petit, les choses se fixent sans qu'il n'y ait jamais eu une loi, une règle qui dit « c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'il faut faire ». En fait, voilà, c'est un bon usage qui se met en place. Alors, c'est en évolution constante, mais quand même, là, l'essentiel des paramètres éditoriaux se fixe.
Donc, la langue française se fixe à cette époque-là aussi, avec la création de l'Académie française, etc. Et les formes littéraires, c'est-à-dire par exemple l'écriture théâtrale, se fixent aussi. Alors dans votre livre, vous évoquez Phèdre, décidément, j'ai la langue qui fourche aujourd'hui. Phèdre, la tragédie de Racine. Phèdre qui aime son beau-fils Hippolyte et qui est, selon Dominique Blanc, qui a joué le personnage dans la mise en scène de Patrice Chéreau, la quintessence de l'amoureuse.
Phèdre, déjà dans son essence et dans son texte, raconte de façon très précise tout ce qu'elle vit, c'est-à-dire je tremble, je frémis, je rougis, je pâlis, c'est-à-dire qu'il y a dès le départ la rougeur, la pâleur, le tremblement, le frisson, le froid, le brûlant, le glacé, le brûlant, tout ça c'est elle qui le décrit. Au XVIIe siècle, on pensait que c'était des maladies terribles, ça n'était jamais qu'une expression de l'état amoureux, mais pour eux c'était des espèces de maladies étranges qui étaient recensées dans des registres cliniques, médicaux. Phèdre, c'est quelqu'un qui m'a sidéré beaucoup et que j'ai bonheur à interpréter tous les soirs, parce que je pense que c'est une amoureuse avant tout. C'est une amoureuse absolue, et je pense que c'est quelqu'un qui a une capacité d'aimer qui est extrêmement rare.
À propos de Phèdre de Racine, voilà donc comment en parle la comédienne Dominique Blanc. L'historien que vous êtes, Pierre Letessier, parle de cette tragédie aussi, mais parle surtout d'une didascalie très précise qui donne le ton, et ça, c'est une histoire, je trouve, passionnante.
Alors, en fait, si on enlève le découpage en actes et en scènes et puis les noms des personnages, il y a 5 didascalies en tout et pour tout dans le texte de Racine. Il y en a 4 qui n'ont pas grand intérêt, ça indique un personnage est seul en scène ou bien un aparté. Bon. Et il y a une indication qui est une indication de régie qui désigne un mouvement que fait Phèdre, et ça commence d'emblée puisque elle fait son entrée, elle dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne peut plus avancer, que justement, c'est ce que dit Dominique Blanc, dès le début, en fait c'est le tremblement de Phèdre, dès le début elle dit que ses genoux tremblent, et il y a une didascalie qui dit « elle s'assied ». C'est la seule didascalie. Donc c'est vraiment, c'est tout bête, c'est tout simple, c'est un verbe, un sujet, « elle s'assied ». Et en fait, cette petite didascalie, elle prend une place énorme, parce que c'est la seule. Alors, je me suis dit, forcément, c'est ce qu'on se dit quand on est lecteur, mais pourquoi, pourquoi ? Bon, elle dit qu'elle se sent pas bien, qu'elle a ses genoux qui tremblent, donc bon, d'accord, elle va pas très bien. Bon, c'est d'accord, ça c'est un premier niveau. Mais il y a plus que ça, parce que déjà, ça veut dire que l'écriture de Racine est focalisée sur Phèdre. C'est-à-dire que c'est un peu comme un coup de projecteur. Quand la pièce a été créée, elle s'appelait Phèdre et Hippolyte. Et Racine, finalement, donc, va garder uniquement Phèdre comme titre. Il resserre toute l'action donc sur le titre, toute l'action sur Phèdre. Et comme par hasard, la seule didascalie de toute la pièce, elle est sur Phèdre. Ensuite, elle s'assied, c'est-à-dire que si on se remet dans le contexte, pour nous c'est assez banal, une actrice qui rentre sur scène, qui s'assied, c'est complètement banal. Mais à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de sièges sur scène, et les acteurs avaient un jeu très statique. C'est-à-dire que
Ils
étaient face publique et on joue surtout sur le visage et sur la voix. Et là, donc, une actrice qui fait son entrée, c'était la Champmêlée, hein, qui était la grande actrice de l'époque, qui fait son entrée, qui dit qu'elle ne se sent pas bien et qui se met assise.
Vous parlez d'effet spécial.
Exactement, c'est quelque chose, pour le spectateur, alors, il y a d'autres personnages chez Racine qui s'assied, mais pas d'emblée. Ou alors c'est un signe justement de majesté, c'est la reine qui s'assied, voilà, c'est la mère de Néron qui est assise. Mais là, c'est ça, c'est un effet spécial, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est presque une cascade, enfin en tout cas, c'est le personnage qui s'effondre. Et donc en fait, ça montre que c'est un personnage, Dominique Blanc parle de ses tremblements et de la maladie d'amour qui frappe Phèdre, mais c'est une maladie absolue. C'est-à-dire qui fait qu'elle ne peut pas tenir, elle ne peut pas jouer comme les autres. Et de fait, elle vient dire qu'elle ne veut plus jouer. Qu'elle veut mourir, elle vient voir le soleil pour la dernière fois, voilà, et donc elle tombe comme ça. Ce qui fait que c'est un personnage, une héroïne tragique qui est d'emblée détruite. C'est ça qui fait la force de Racine. Et après, elle va se relever, parce qu'il y a la confidente Enone qui va essayer de lui redonner des forces, parce qu'elle a un jeune enfant, donc il faut se relever et se battre. Elle va se relever, mais le public l'a déjà vue tomber. Et finalement, elle va se relever pour mieux tomber. Et Phèdre, en fait, moi j'ai l'impression que ce mouvement-là, ce petit mouvement de... Elle tombe assise. En fait, c'est un peu le signe de la fatalité tragique qui la frappe.
Donc, tout tient dans cette didascalie, ou presque. Absolument. Peu de didascalie dans Phèdre. Énormément, en revanche, trois siècles plus tard, chez Ionesco ou chez Beckett. 876 didascalies dans En attendant Godot et l'obligation de les respecter. Mais pour Alain Françon, le metteur en scène qui a monté En attendant Godot, Beckett a beaucoup écrit, réécrit, mais aussi enlevé des didascalies au fur et à mesure des versions.
En fait, les didascalies, ils changent beaucoup. Je vous donne un exemple. Quand il l'a monté, je ne sais pas combien de silences ou de pauses il doit y avoir dans l'édition de minuit. Quand lui, dans son dernier manuscrit, il en reste 7. Il appelle ça « waiting moments », moment d'attente, ce qui est beaucoup plus beau que silence, puisque c'est En attendant Godot. Il en reste 7.
Preuve s'il en est que le texte de théâtre n'est pas immuable, Pierre Le Tessier, tout ça va dans votre sens.
Absolument, c'est-à-dire qu'en fait souvent, et c'est très intéressant ce que pointe ici Alain Françon, parce que en fait souvent on accuse un peu les didascalies de fixer le texte, de fixer le dialogue, de figer les choses. Or en fait, si on regarde les choses de près, on se rend compte que du point de vue de l'écriture, justement, ça bouge. Et là, en fait, ce qu'il est en train d'écrire, c'est l'évolution du texte, y compris des didascalies, donc c'est ce qu'on appelle la mobilité ou la mouvance, qu'on appelait au Moyen-Âge la mouvance, mais qui va bien encore. Et effectivement, ça bouge d'une version à l'autre, et même d'une édition à l'autre. C'est-à-dire que les didascalies de Beckett, c'est absolument passionnant, parce qu'en plus, Beckett, il y a les éditions anglaises et il y a les éditions françaises. Et là, ça bouge. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, il y a une didascalie dans En attendant Godot, en français, où il y a un échange d'injures. Il y a une didascalie qui dit « échange d'injures ». Dans la version anglaise, on a les injures. C'est-à-dire qu'elles font partie du dialogue. Donc en fait, ça bouge complètement. Ou alors dans la première édition, vous avez, dans l'édition anglaise, pardon, vous avez, il est précisé donc en anglais qu'il s'agit d'une tragicomédie en deux actes. Dans l'édition française, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu cette indication qui oriente la lecture.
Donc vous êtes un archéologue du théâtre, en fait, en travaillant sur les didascalies et sur les différentes versions, justement, des textes.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu de l'archéologie du texte, mais ce n'est pas une archéologie de littéraire, parce qu'en fait, c'est une archéologie qui est liée directement, qui a son emprise directe et sa traduction directe sur la scène. Parce que, un autre exemple, la première édition de En attendant Godot, on avait la liste des personnages. Ce qui fait qu'un lecteur qui ouvre ça, eh ben, il voit tout de suite qu'il n'y a pas Godot. Alors que, et dès la deuxième édition, c'est-à-dire dès l'année suivante, en fait, ça disparaît à l'édition. Maintenant, quand on ouvre ce texte, on n'a pas de liste de personnages.
On attend Godot.
Eh ben, donc on peut attendre Godot. Non, mais vous voyez, ça change. En fait, ça change tout, parce que du point de vue du suspense, parce qu'il y a un suspense dans ce texte-là aussi, ça change absolument tout. Et si je peux me permettre de rajouter une dernière chose sur Godot et sur Beckett, parce qu'en fait, Beckett, on a cette image d'un auteur ultra rigide et qui veut absolument qu'on suive à la lettre ses didascalies. Et donc, c'est une attaque qu'on fait souvent en didascalie, justement. À la fois de fixer le texte et d'autre part de tuer les mises en scène. Or, en fait, si on regarde la pratique même de la mise en scène de Beckett, parce que Beckett était metteur en scène, on ne le sait pas toujours en France, mais il est, parce qu'il a fait beaucoup de mise en scène, surtout en Allemagne, eh bien, en fait, on se rend compte que bien souvent, il ne suit pas ses didascalies, ses indications scéniques, et même souvent pas du tout, du tout. Dans En attendant Godot, et juste ce dernier exemple, ça commence par Estragon qui s'occupe de ses chaussures, et puis il y a une didascalie qui dit « Vladimir, entre ». Eh bien, quand Beckett met en scène En attendant Godot, il ne fait pas entrer Vladimir. Vladimir est déjà sur le plateau. Et ça, ça change tout, parce que ça veut dire que les deux personnages sont déjà réunis dans le même espace.
Donc, ce ne sont pas des excroissances du texte, les didascalies. Cela fait partie de la littérature dramatique. On pourrait parler de Diderot, si on revient un peu en arrière, qui a révolutionné d'une certaine façon le théâtre avec des didascalies narratives. Mais il y a aussi Hugo, dont parle si bien Denis Podalydès, grand nom de la comédie française, qui évoque ici Hernani, la pièce de Victor Hugo.
Ces didascalies, elles sont si belles, si poétiques. Elles sont absolument antidescriptives. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que Hugo voit en songe. Et si on suit ça à la lettre de manière réaliste, évidemment, on tombe dans une impasse. Enfin, on ne peut même pas y arriver. Et alors, se servir des didascalies, c'est très intéressant pour essayer d'avoir l'œil de Victor Hugo dans la salle. On sait qu'il mettait en scène ses propres œuvres, d'ailleurs. Il n'avait pas un concept de la mise en scène tel que nous l'avons, nous, mais il en était le régisseur. Et donc, il devait voir la scène. C'est très beau parce qu'on le regarde à travers son imagination. En fait, ces didascalies, c'est ce qu'elles nous demandent, c'est inventer l'impossible. Elles nous disent ça. Faites-nous voir l'océan, faites-nous voir la nuit de l'âme, faites-nous voir l'horreur, mais l'horreur avec un grand H. En fait, c'est comme les grands auteurs, comme Shakespeare, ils vous mettent devant la scène comme devant une caverne obscure. Et de cette caverne obscure, il faut faire surgir dans la tête des gens des images qui dépassent tout ce qu'on peut représenter.
Dans ce cas-là, donc, avec Victor Hugo, mais aussi avec Denis Diderot, les didascalies, c'est le texte. Et si on en croit Podalydès, c'est une autre définition des didascalies, finalement. Elles sont là pour participer de la narration et faire théâtre de la même manière que les dialogues.
Absolument. Le texte de théâtre, c'est vraiment les deux. Les auteurs écrivent du dialogue et des didascalies. Et on se rend compte vraiment que écrire du théâtre, pour les auteurs, c'est écrire des dialogues, mais écrire aussi des didascalies, en particulier depuis Diderot, qui réinvente tout un nouveau système et qui introduit en fait le geste, parce que les didascalies permettent d'introduire justement le geste, donc le jeu muet et de créer voilà, quantité de choses dans le texte. Il n'y a pas que la parole des personnages. Et ce que dit là Podalydès et Denis Podalydès est absolument très très beau et très juste. Inventer l'impossible, parce que très souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Beckett, en fait on assimile les didascalies à des ordres donnés au lecteur d'imaginer ce qu'on lui donne à imaginer et aux praticiens de mettre sur scène et de faire sur scène ce qu'on écrit. Et évidemment, si on considère ça, c'est une impasse. Il parle d'impasse, mais il a raison. C'est-à-dire que ça réduit les choses, même si bien souvent, les didascalies pouvaient être transcriptives, c'est-à-dire qu'on peut soit transcrire la vision d'un auteur, soit effectivement même ce qu'avait fait un metteur en scène, et au moment de l'édition, on écrit ce qui s'est fait. Mais en fait, je crois que, et c'est là où ça devient passionnant pour le lecteur, qu'il soit praticien ou non praticien d'ailleurs, c'est que en fait, il s'agit aussi d'inventer l'impossible. C'est-à-dire que ça nous embarque dans une histoire, ça nous embarque dans un imaginaire, mais c'est vraiment, ça ouvre des possibles.
Alors, on parcourt très rapidement, comme ça, 20 siècles ou un peu plus de l'histoire du théâtre occidental avec vous, Pierre Le Tessier. Mais qu'en est-il aujourd'hui, très brièvement? Vous dites, elles n'ont pas très bonne presse, les didascalies.
Elles n'ont pas toujours très bonne presse parce que justement, on considère souvent que le théâtre, c'est le dialogue, c'est la parole des acteurs. Et puis, ce qu'il y a autour, c'est mis en italique, entre parenthèses, donc c'est un peu à l'écart. Et donc, on peut être amené à les sauter quand on lit le texte ou bien, quand on fait la mise en scène, à ne pas les lire. Mais en fait, si on fait ça, ça veut dire qu'on considère que souvent, les didascalies sont là pour dire ce qu'il faut faire ou dire ce qu'il faut penser. Donc aujourd'hui, évidemment, un metteur en scène, il a sa propre vision, il veut être libre. Sauf que, en fait, et c'est là où c'est passionnant, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est parce que la pratique des auteurs, la pratique didascalique des auteurs aujourd'hui a totalement évolué. C'est-à-dire que là où un Genet écrit encore des didascalies de façon impérative en disant « ça sera comme ça », voilà, et pas autrement. Après, les metteurs en scène, c'est ce qu'ils voulaient. Mais en fait, les auteurs aujourd'hui écrivent des didascalies au conditionnel, comme des possibilités. Voilà. Un auteur comme Kofi Kwaole, par exemple, écrit des didascalies avec peut-être.
Merci beaucoup Pierre Le Tessier. Les Didascalies en question et quelques peut-être est édité, ça c'est un rajout de ma part, est édité chez Actes Sud Papier qui fête ses 40 ans d'existence. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto, de vive voix, on se retrouve demain.